Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron renonce à sa retraite de président de la République en plein conflit social autour de la réforme des retraites. Le chef de l'État annonce qu'il ne touchera pas la dotation réservée aux anciens locataires de l'Élysée, soit un peu plus de 6000 euros bruts par mois. Les explications de Sarah Touchereur.
La loi datait de 1955. Elle prévoyait que les anciens présidents de la République touchent, dès leur sortie de l'Élysée, l'équivalent du traitement d'un conseiller d'État, un peu plus de 6 000 euros bruts par mois. Interrogé à ce sujet, Emmanuel Macron annonce donc sa volonté de ne pas bénéficier de ce régime particulier qui convergera à l'avenir vers le droit commun. Simple question de cohérence, explique son entourage. Il veut s'appliquer les principes qu'il entend faire appliquer aux Français. Il n'est pas question de faire une démonstration d'exemplarité, ajoute l'Élysée, qui rappelle tout de même au passage qu'Emmanuel Macron a démissionné de la fonction publique dès le début de son mandat et qu'il a aussi indiqué qu'il ne siégerait pas comme ancien président au Conseil constitutionnel, une fonction qui donne droit à une indemnité de 16 000 euros bruts par mois.
Emmanuel Macron qui appelle les grévistes à une trêve de la grève à Noël, il n'est pour le moment pas entendu par les grévistes toujours déterminés à faire plier le gouvernement. Le trafic SNCF est toujours très perturbé ce dimanche avec un TGV sur deux et un TER sur trois. Par ailleurs, la CGT Énergie revendique les deux coupures de courant intervenues pendant les rencontres de top 14 de rugby, Agen, Toulouse et Castres-Lyon. Les deux stades ont été plongés dans le noir pendant une quinzaine de minutes. C'est l'un des derniers vestiges de la France-Afrique. Le franc CFA va disparaître en Afrique de l'Ouest dès 2020 au profit de l'éco, une nouvelle monnaie commune des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'annonce a été faite hier soir à Abidjan par Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Et au-delà du changement de nom, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest n'est plus obligée de confier la moitié de ses réserves de change au Trésor français. La France, par ailleurs, ne siégera plus dans les organes de décision de cette union monétaire qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Dans son discours, le président français a également qualifié le colonialisme de faute de la République et a répété sa volonté de définitivement tourner la page de la France-Afrique.
Trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. Il nous appartient collectivement de bâtir cette nouvelle page, celle de ce partenariat, de cette amitié. On ne peut pas balayer le passé. Donc il faut regarder les fautes, savoir regarder aussi ce que nous avons su faire ensemble et regarder la richesse de nos relations.
La tempête Fabien balaye la moitié sud de la France, de la côte atlantique à la Corse. 9 départements sont en vigilance orange pour vents violents et inondations. La Corse est la région la plus touchée avec des vents mesurés à près de 200 km/h. 17 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Hier soir, la ville d'Ajaccio était complètement inaccessible avec les routes coupées, l'aéroport inondé et les bateaux interdits de départ. Les États-Unis se disent très préoccupés par l'intensification des combats en Libye, des affrontements qu'ils imputent à la présence renforcée de mercenaires russes au service du maréchal Haftar qui tente de prendre la capitale Tripoli, actuellement aux mains du gouvernement légal libyen, soutenu lui par la Turquie. Alors la Russie soutient un camp, la Turquie soutient l'autre. Ces prises de position peuvent-elles remettre en cause l'entente affichée par les présidents Poutine et Erdogan? Peu probable, selon Jalel Archaoui, chercheur à l'Institut des Relations Internationales à La Haye et spécialiste de la Libye.
Il faut se souvenir que la Turquie n'est pas un ennemi de la Russie aux yeux de Moscou. Aux yeux de Moscou, la Turquie constitue peut-être la puissance du Moyen-Orient la plus précieuse. Donc quand vous voyez le président Erdogan parler d'intervention éventuelle en Libye, et ainsi de suite, il faut noter son côté assuré, confiant de lui-même. S'il arrive à ce degré de confiance, c'est qu'il a sans aucun doute pris soin d'exploiter son dialogue constant avec le Kremlin. Ce sont des États qui ont réussi en Syrie parce qu'ils ont adopté une logique anti-occidentale. Et le point commun, si vous voulez, c'est cette volonté de bâtir une logique dans le Moyen-Orient qui soit capable d'exclure les intérêts occidentaux. Donc, ils vont sans doute trouver une forme d'arrangement. Ces deux hommes ont réussi en Syrie parce qu'ils ont su travailler ensemble. Donc, il faut s'attendre à un scénario grosso modo similaire en Libye. Et ça risque de se faire aux dépens du maréchal Haftar, qui risque de se retrouver finalement à devoir continuer à patiner en Tripolitaine, voire être rejeté et devoir revenir en Cyrénaïque. Et on pourrait penser d'ailleurs dans ces conditions-là à une éventuelle partition de la Libye.
Jalal Arshaoui au micro d'Alicia Miami. Les dizaines de milliers d'ouvriers nord-coréens envoyés à l'étranger par le régime doivent désormais rentrer chez eux. Ce dimanche 22 décembre est en effet la date butoir d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui exige le rapatriement de tous ces travailleurs détachés. Ils sont une précieuse source de devises pour le régime, des devises soupçonnées de financer le programme nucléaire de Pyongyang. Et si leur expulsion est obligatoire, certains alliés de la Corée du Nord sont déjà soupçonnés de tricher. Correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias.
Les 100 000 ouvriers nord-coréens détachés rapporteraient au régime plus d'un demi-milliard de dollars par an. Près d'un quart d'entre eux ont déjà été rapatriés, affirme un récent rapport de l'ONU. 18 000 ont ainsi été expulsés par la Russie, 2 500 par le Qatar, où des stades de la future Coupe du Monde ont été construits par des Nord-Coréens. Mais la Chine, principal employeur d'ouvriers nordistes, n'a aucune intention d'appliquer les sanctions sur le terrain, affirme Lee Sang-hyun, chercheur à l'Institut Sejong à Séoul.
La Chine et la Corée du Nord partagent une frontière longue de plus de 1400 km, une frontière très poreuse. Elles ont aussi mis en place différents types de visas, étudiants, touristiques, familiaux, qui peuvent servir à contourner les sanctions. Je pense qu'obtenir la coopération de Pékin est devenu une douce illusion. La Chine est surtout préoccupée par sa rivalité à moyen et long terme avec les États-Unis. La coopération entre Pékin et Washington au sujet de Pyongyang se désintègre.
La Russie est aussi soupçonnée de tricher. En 2 ans, elle a multiplié par 10 les visas étudiants et touristiques donnés aux Nord-Coréens, une hausse très suspicieuse.
Une correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias. Si on apprend à l'instant en Afghanistan, qu'Ashraf Ghani, le président, remporte la majorité à la présidentielle. Ce sont les résultats préliminaires. Le scrutin avait eu lieu il y a 2 mois. Il devance le chef actuel de l'exécutif, Abdullah Abdullah. Un mot de la météo ce matin, de la pluie sur tout le pays, à l'exception du pourtour méditerranéen. Les températures vont de 9 à Lille jusqu'à 17 à Toulon.